Vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 24 février 2014 avec Jean-Pierre Michel dans les studios et Robert en duplex. On ne sera pas trop de trois pour commenter l'actualité du jour. Et il est inévitable que nous commencions, bien sûr, par parler de l'Ukraine qui va tenir une grande place dans ce journal. Énormément de choses à dire, aussi bien au niveau événement qu'au niveau géopolitique. Événement, on sait qu'en une semaine, tout a basculé. Ça faisait 3 mois que les gens manifestaient. Mercredi, répression violente, 60 de morts, peut-être même 100, on ne sait pas trop. Samedi, Yanukovych, désavoué, se sauve à l'est de l'Ukraine et un parlement prend le pouvoir avec pas trop de pagaille, on va dire. C'était un ordre à la fois dans la rue avec des gens dont on ne sait pas trop de quelle organisation c'était mise en place, mais enfin une organisation de toute évidence, et puis un pouvoir qui aussitôt vote des lois à tour de bras, il n'arrête pas encore ce soir, il a remis en place la constitution de 2004 et il se donne comme objectif de procéder le plus rapidement possible, ça va quand même prendre 2 mois, à des élections présidentielles et autres. Mais bon, ça c'est l'événementiel, une partie de ce qu'il faut dire, mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a la Russie, il y a toutes sortes de chars russes, est-ce que Poutine va envoyer ses chars russes sous une forme ou sous une autre, il y a l'Union européenne, il y a Merkel, il y a peut-être les Américains derrière. Et on a du mal, il y a Timoshenko qui est revenu, qu'on a vu, qui a fait une une prestation sur la place Maïdan samedi soir. Bon, ça s'imposait, libéré de prison, aussitôt projeté sur la place, mais c'est sûrement pas le leader politique que tout le monde attend. On verra pourquoi éventuellement. Voilà, ben je vais laisser aussi à mes collègues le soin d'embrayer sur des commentaires. Michel, tu voulais partir sur quoi, toi, sur cette question-là ?
C'est sûr qu'on peut en parler de l'Ukraine. Merci de nous avoir rappelé un peu la chronologie un peu de la semaine, savoir ce qui s'était passé. Moi, je voulais surtout m'étonner un peu de... Enfin, si j'ose dire, du départ de Yanukovych, comme ça, un peu précipité, c'est-à-dire, il tenait des mois, des semaines, et d'un coup, pop, plus rien, quoi. C'est-à-dire, il a été désavoué avant tout par les députés de son parti, hein, du Parti des Régions, qui finalement...
le lâcher.
L'ont lâché, alors que... Officiellement, donc c'est lui qui vendredi, si je ne m'abuse, était revenu donc sur le principe donc de la Constitution de 2004, qui laissait beaucoup plus de place au Parlement qu'au président. Bon, ce qui se cache derrière ça, avant tout, on le voit bien, c'est le revirement donc des oligarques. Hein. Faut pas non plus se leurrer, c'est-à-dire que l'Ukraine a passé. À l'opposition, ne va pas changer du jour au lendemain. Hein, là. Donc, tous les mots qui caractérisent un peu ce pays, à savoir cette corruption généralisée, sont omniprésents. Les oligarques ne soutenaient pas exclusivement donc le Parti des Régions. Hein, ils sont aussi aux côtés donc de l'opposition. Ils ont donc vu le vent quelque peu tourner. Et ils ont lâché Yanukovych. Hein. Il n'y a pas d'autre explication. Alors, à savoir maintenant, où se trouve Yanukovych ? Est-il parti en Russie ? Est-il à Donetsk, donc son fief d'origine ? Est-il en Crimée, dans sa résidence secondaire ? On le verra dans les jours à venir. Mais la précipitation des événements, on le voit bien. Hein. C'est pas la rue qui véritablement a décidé. Et à un moment, je pense que c'est... C'est vraiment l'oligarchie au pouvoir qui a compris que la situation donc devenait catastrophique pour des raisons économiques. Hein, parce que maintenant, ce qu'on note, hein, c'est la difficulté pour l'Ukraine à se refinancer et le besoin donc impérieux de trouver 35 milliards de dollars. Donc c'est ce qui apparaît au grand jour et tout de suite, d'où le peu d'empressement aussi de l'Union européenne à aller toute seule. Hein. On attendait Catherine Ashton aujourd'hui à son arrivée à Kiev, mais qu'est-ce qu'elle a dans la besace à proposer ? On n'en sait trop rien. Hein. On parle du FMI, d'une mise en place donc d'une conférence des pays donateurs, mais qui personne ne se presse, hein, devrait dire. Donc là, on voit bien le premier aspect, c'est ce qu'on avait à analyser dans les semaines précédentes, à savoir que c'est avant tout un conflit géopolitique entre les intérêts de l'Occident, à commencer par les États-Unis, et de la Russie. Donc ça apparaît de manière très très claire. Et qu'aujourd'hui, donc, devant ce gouffre, personne, mais alors personne, donc, ne se presse. Alors, oui, victoire de qui ? Victoire de l'opposition, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est-à-dire, si jamais il y a un programme de refinancement du FMI, il va se concrétiser par des suppressions massives d'emplois, dits sauvegardés dans l'administration, où c'est tout sauf un avenir rose qui s'annonce aux Ukrainiens.
Ouais. Il y a le problème de la partition aussi, la partition formelle ou la partition informelle, avec l'est sud-est du pays qui est russophone et russophile, avec la Crimée qui est une base militaire impossible à céder pour les Russes. Alors il y a une guerre économique entre les intérêts russes et les intérêts russes et ukrainiens, ben, avec la Russie, et il y a aussi les intérêts européens avec l'Ukraine et avec la Russie. Quand Merkel elle discute avec Poutine, elle discute aussi du gaz russe qui l'alimente. Enfin, tout ça se tient. Alors, jusqu'où va aller l'affrontement? Les Russes ont quand même l'air très mécontents ce soir. Hein, Medvedev a fait un discours tout à fait offensif.
Oui, il a juste rappelé, effectivement, si les chancelleries occidentales s'étaient empressées de reconnaître ce gouvernement qui en avait pas, hein, donc qui est donc mené par le président du Parlement, Turchinov. Pour Medvedev, il rappelle effectivement que c'est la rue qui a renversé un président qui avait été démocratiquement élu et dont les résultats avaient été reconnus par l'OSCE. La coopération future avec le gouvernement, elle se fera uniquement avec un gouvernement bien élu. Donc s'il faut attendre le 25 mai, puisqu'on annonce au 25 mai les élections prochaines, sachant que dorénavant tout le monde essaie de se placer, on a vu Yulia Tymoshenko aussitôt sortie de prison montrer qu'elle était offensive et qu'elle était là, et d'autres aussi mettent en avant le fait que c'est peut-être pas celle à mieux de représenter l'opposition qui a été dans la rue au régime, au président Yanukovych, et c'est vrai, mais dans le même temps elle était cette opposition donc violente pour certains même armés, il ne faut pas l'oublier que c'était le fait de gens qui étaient plutôt proches du parti Svoboda, qui est quand même à l'extrême droite hein, de l'échiquier politique ukrainien, qui pour certains se réclame de Stepan Bandera, donc qui a été le leader de cette Ukraine occidentale pro-nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. La première chose qu'ils ont fait, c'est déboulonner dans l'Ukraine occidentale tout monument qui justement rappelait donc le passé
soviétique, de Lénine, en gros,
ou communiste donc de cette région, les statues de Lénine, mais aussi d'autres, hein, de partisans ukrainiens, mais communistes. Donc on voit effectivement, faut pas trop jouer avec, enfin dans l'absolu, faut pas se leurrer, hein, les Américains, si ça pète, hein, ça leur convient bien, hein, de qu'il y ait un fer comme ça au chaud pour les Russes et pour les emmerder, excusez-moi de parler comme ça, c'est une politique qui leur convient, pour les Européens nettement moins, parce qu'on va avoir affaire à un fardeau qui risque de peser énormément sur les relations en Europe et avec notre voisin immédiat qui est aussi la Russie, il ne faut pas l'oublier. Tu parlais aussi des provinces du Sud, donc la région de Crimée, de l'Est. Oui, russophones, russophiles, oui, ils sont avant tout ukrainiens, hein, mis à part en Crimée où ils se réclament vraiment russes, mais à Kharkov, hein, les gens sont ukrainiens, hein, pendant les Jeux Olympiques de Sochi, hein, c'est pour l'équipe ukrainienne, hein, caler leur cœur, pas pour l'équipe russe, mais ils sont effectivement de langue russe, ils se sentent historiquement, culturellement et économiquement surtout, hein, intégrés totalement à la Russie, et ils ne veulent pas donc se défaire de ces liens. Contrairement donc aux Ukrainiens occidentaux de la région de Lvov, qui depuis Marie-Thérèse, hein, depuis qu'une partie d'entre eux ont reconnu le pape, hein, je pense là à l'église grec-catholique de Lvov, donc qui de fait est de rite orthodoxe, mais a reconnu la primauté du pape et s'est tournée vers Rome, et depuis sert un peu pour l'Occident, hein, de dernière marche, hein, face à ces orthodoxes un peu, vous voyez, sortis du giron de l'Église. Donc c'est grandes failles qui existent dans la population ukrainienne qui reviennent en avant. Et la chose assez horrible, c'est qu'on nous avons attisé un peu, hein, ces différences-là, alors que ce pays peut vivre de manière indépendante, donc choisir sa voie, mais on les pousse à choisir aujourd'hui. Et donc tout le souci, c'est Medvedev l'a encore répété aujourd'hui, ou bien si vous signez, si le futur gouvernement signe un accord donc, avec l'Union européenne, de fait, elle sort donc de ses engagements et de ses accords douaniers avec la Russie, et donc c'est l'imposition de barrières douanières, mais aussi ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est vraiment une césure nette. Alors jusqu'à quel point justement les Russes ont-ils accepté, il est clair que sur l'affaire de Crimée il n'y a pas vraiment de solution. Rappelons juste que la Crimée c'était cette presqu'île peuplée de Tatars pendant très longtemps qui ont été jusqu'en 1945 la population majoritaire, hein, mais que Staline donc a déporté massivement en Sibérie parce que beaucoup d'entre eux ont coopéré aussi avec les Allemands, et qui a été repeuplée de Russes. Aujourd'hui une île qui est une presqu'île pardon qui est peuplée de Russes de Russie, mais pas d'Ukrainiens, hein, de la région. Où à Sébastopol, donc l'armée.
C'est l'ouverture russe, sur la mer Noire, voilà, pour la Russie.
Tout à fait, et non seulement, mais c'est là où elle tient sa base, sa principale base, hein, navale. Et donc c'est une région qui a été russe en 1954, c'est Nikita Khrouchtchev, hein, donc secrétaire général du Parti communiste ukrainien, qui l'a fait basculer au temps de l'Union soviétique dans la République d'Ukraine, d'où effectivement cette difficulté aujourd'hui, une population qui tout de suite lorsque il y a eu donc si on peut pas parler de coup d'État, je ne sais pas, de coup constitutionnel samedi, s'est empressé dans les rues de Sébastopol pour manifester, pour faire savoir effectivement que si vraiment c'est comme ça que les choses se passaient à Kiev ou à Lvov, hein, où on a vu les gouverneurs être démis de leurs fonctions, et bien donc la Crimée allait faire sécession du reste de l'Ukraine. Donc bon, il faut essayer de calmer un peu les choses. Il faudrait que les chancelleries européennes commencent à avoir une politique qui soit en conformité donc avec leurs intérêts, mais ne pas avoir une politique comme ça en sous-main qui corresponde aux intérêts des États-Unis, parce que pour l'instant c'est ce qui se passe, hein. Pour l'instant on n'a rien fait, ou lorsqu'on a agi c'était en vue effectivement d'attiser le feu, et on en arrivait là où on en est actuellement. La situation risque de se corser, de se compliquer jusqu'à la tenue de ces élections, parce que, en attendant, on voit mal les régions russophones, russophiles, hein, donc l'Est et le Sud de l'Ukraine, donc de voir des comptes donc à Kiev. Et surtout, ne surtout pas oublier cette donnée-là aussi. On parle effectivement de régions russophones, russophiles, mais dans l'Est de l'Ukraine est concentré à plus de 65% de la capacité économique du pays. L'Ukraine occidentale est principalement donc une zone rurale, hein, mais d'où effectivement aussi cette difficulté. Ouais. Hein.
Ce qui fait dire aux gens de la partie Est qu'il pourrait y avoir une partition qui serait à leur bénéfice, puisque, enfin, si on reprend leur langage un peu sommaire, la partie Ouest vit aux dépens de la partie Est, hein, comme un peu en Italie. Les Italiens du Nord prétendent qu'ils passent leur temps à travailler pour les Italiens du Sud.
Un peu.
Robert, tu as peut-être aussi quelques commentaires.
Oui, je voulais évoquer au plan géostratégique que se poursuit une entreprise à l'échelle planétaire, notamment de l'hémisphère nord pour l'instant, l'hémisphère sud, ça viendra sans doute plus tard, à savoir cette volonté des Européens appuyée sur les Américains pour que se construise non pas un monde multipolaire, mais un monde unipolaire. Et pensent que, Américains comme Européens, pensent que un seul pôle sur cette planète suffit. Et donc, isoler, réduire la puissance de la Russie, l'empêcher de progresser dans cette puissance, réduire son influence, c'est aussi ce qui se dessine derrière cette crise de l'Ukraine. après d'autres et sans doute avant d'autres crises dans la région. On peut rappeler que tout a commencé après 1990, après la chute du mur. Immédiatement, l'Europe, appuyée par les Américains, s'est mise au travail pour récupérer tous ces pays qui faisaient effectivement le tampon entre l'Ouest capitaliste et l'Est du socialisme réel. Le récupérer pour empêcher que se construise une Russie puissante, on va dire concurrente dans le même secteur que le monde occidental, c'est-à-dire dans le monde capitaliste. Alors, on arrive donc maintenant, après effectivement ce que fut la guerre froide entre deux systèmes différents, maintenant, c'est une guerre chaude qui risque de se produire. Enfin, on en voit les prémices, on ne sait pas jusqu'où ça ira en termes d'aventure guerrière, mais on voit bien que l'affrontement inter-impérialiste du monde capitaliste, eh bien, se précise dans ces affaires de récupération de tous ces pays, dont il faut rappeler que, certes, une partie de la nomenclatura de ces pays, nomenclatura dite abusivement communiste à l'époque, a largement profité donc du passage au capitalisme, mais il n'y a pas qu'elle, il y a l'ensemble des Européens et des Américains qui en profitent. On pense surtout aux Européens, on pense notamment aux Allemands qui profitent largement parce que ils ont les uns les autres, Français compris, on en a notre part, bien qu'on ne soutienne pas ça naturellement, c'est pas nous qui faisons la politique de la France, mais la France a aussi pris sa part du gâteau dans la spoliation, dans le pillage de ces pays-là, de son industrie, même de son agriculture. Par exemple, l'Ukraine, qui était le grenier à blé de toute la région, notamment pour la Russie, c'était très important. Eh bien, on a cassé tout le système que les communistes avaient mis en place, c'est-à-dire sovkhoz, kolkhoz, planification, et on a donné à chaque paysan un petit bout de terre avec une ou deux vaches, trois ou quatre moutons, etc., en leur faisant croire que c'était ça la véritable appropriation du bien. Naturellement, ça conduit à l'appauvrissement à la fois rural, agricole, de cette Ukraine. Donc, ce phénomène d'aujourd'hui, c'est donc dans cette bataille pour empêcher que se crée sur la planète un monde multipolaire. Aujourd'hui, c'est Moscou et la Russie qu'il faut neutraliser. Demain, quand ce sera fait, demain, il faudra s'occuper de la Chine, empêcher qu'elle prétende elle aussi à devenir un pôle multipolaire, un pôle capable de faire concurrence au pôle occidental qui est celui que nous vivons.
Voilà. Quelque chose de plus, Michel, non ?
Non, juste effectivement parler un peu en marge un peu de l'Ukraine, du cas par exemple, c'est assez flamboyant, d'un des oligarques ukrainiens, je parle de Viktor Pinchuk. Donc Pinchuk, c'est la deuxième fortune ukrainienne, parmi les 200 fortunes d'après le magazine Forbes mondial, qui bien sûr a fait sa fortune grâce à la spoliation, donc la vente de biens publics, de sidérurgie, qu'il a racheté en son temps avec un autre oligarque, Akhmetov, alors que Kouchma était président. Il a épousé la fille de Kouchma, ça a un peu aussi aidé. En son temps, donc, il était donné comme vraiment l'oligarque proche, issu de la nomenclatura, proche du parti, d'un apparatchik, etc. Bon, aujourd'hui, ce Viktor Pinchuk, c'est juste, pour ceux qui l'avaient oublié, c'est celui qui a fêté son 50e anniversaire à Courchevel et qui a dépensé en son temps 5 millions d'euros pour son anniversaire, qui a fait venir tout son beau monde, Ducasse pour faire la cuisine, le Cercle du Soleil, enfin bref, voilà. Et aujourd'hui, donc, c'est un des mécènes de l'opposition ukrainienne, hein, et on omet de le dire, c'est celui qui a donné 11 millions de dollars à la fondation Clinton, ça aide. Vous voyez, ce type de personnage donc qui chaque année organise donc le Yalta European Strategy donc en Crimée, qui se veut un peu une sorte de pôle de réflexion entre Grand ce monde, DSK et d'autres personnalités de cet acabit ont été invités pour plus se faire corrompre qu'autre chose, mais en gros penser le monde et penser la transition de ce pays qu'est l'Ukraine à l'économie de marché telle que l'Occident la conçoit. Donc en gros, comment faire sortir du giron russe donc cet État qui est l'Ukraine. Et donc ce travail de sape hein, qui a été mené déjà depuis quelques années par Pinchuk, qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Hein. Et je suis assez étonné effectivement qu'on nous montre à la télévision les résidences de Yanukovych. Soit, c'est très très bien, mais pourquoi pas aller voir celle de Pinchuk ou d'autres oligarques qui eux soutiennent aussi le coup d'État qui vient de voir le jour. Juste pour dire que de fait, oui, dans cette confrontation capitalistique, hein, on a du mal donc à soutenir cette révolution-là parce qu'on voit bien que c'est pas la révolution du peuple. Hein, on voit bien que c'est pas la révolution des gens pour un avenir meilleur, mais c'est plus effectivement des intérêts. Alors, à travers effectivement des thématiques aussi qui sont réelles, à savoir le chômage de masse, la non-perspective, la corruption de toutes les administrations, donc c'est quelque chose qui saute aux yeux. Mais voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui on a toute une pléiade d'acteurs issus de l'opposition, que ce soit, on a dit, Timoshenko, Klitschko, enfin, Yatsenyuk ou d'autres, qui ne valent pas mieux, quoi. C'est-à-dire que, de fait, ils vont se vendre plus offrant et on voit bien qu'ils vont être les marionnettes des uns et des autres. Si Yanukovych pouvait apparaître comme la marionnette de Moscou, que penser de ceux qui se prétendent effectivement de l'opposition?
Et que dire de ce qui se passait dans la rue? Parce que, est-ce que tous ces gens étaient instrumentalisés? Est-ce que c'était une insurrection populaire? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de monde qui s'est mobilisé dans des conditions dures. Depuis 3 mois, la tenue dans le froid et tout, et là les affrontements, des combats de rue. Alors est-ce qu'il y a eu quand même un aspect insurrection populaire de gens mécontents qui espèrent un avenir meilleur? Je ne suis pas sûr, peut-être dans l'Europe, peut-être pas. Ou est-ce que vraiment c'était des mercenaires envoyés là pour...
De toute évidence. Non,
c'est sûr qu'il y a un côté populaire,
hein, ah, bien sûr.
Et qui s'est développé au fur et à mesure que la répression elle-même se faisait forte. Mais je crois que il ne faut pas qu'il se fasse d'illusions. Pas plus à l'ouest qu'à l'est, on souhaite une révolution sociale dans ce pays, c'est-à-dire une forme de pouvoir qui échapperait aux logiques capitalistiques. Donc beaucoup de gens qui effectivement de bonne foi sont dans la rue à Kiev et ailleurs, eh bien ceux-là, il ne faut pas qu'ils comptent que le système va changer fondamentalement. Il va se moderniser et s'intégrer davantage au système capitaliste mondial.
Michel?
Oui, juste dire effectivement, c'est un grand mouvement populaire qui a peut-être pas au début lorsque Yanukovych a refusé donc de signer à Vilnius. Donc là, je pense pas qu'il y ait eu de spontanéité hein, dans la rue. Mais après, les gens sont sortis massivement dans la rue parce que il y en avait marre effectivement de. Rappelons juste, c'était à tête fait, c'est-à-dire l'économie ukrainienne au bord de la banqueroute, donc qui est croulante. Mais ne pas oublier que ces éléments donc qui arrivent de l'Ukraine occidentale, de la région de Lvov, sont hautement instrumentalisés. Et quand je dis ça, ils ont toujours été instrumentalisés. J'en veux pour preuve que beaucoup, par exemple, de prêtres hein, de ces régions-là ont été formés aux États-Unis, donc dans les séminaires de l'Église grecque l'église pardon, grecque catholique donc en Pennsylvanie, qui de longue date ont servi, parce qu'ils sont, la plupart de ces Ukrainiens occidentaux sont partis en 1945 pour ne pas être pendus hein, par les communistes, ont été reçus aux États-Unis, et de longue date donc la CIA a collaboré donc avec ces éléments là et les prêtres donc à la chute du communisme qui sont revenus en Ukraine ont eu leur rôle donc politique aussi dans la remise en place effectivement de ce nationalisme où on ressortait les images donc de Stepan Bandera comme n'étant pas effectivement un fasciste mais un héros de la nation ukrainienne au sens noble, etc. Et donc ces éléments, c'est ceux qu'on a vus effectivement habillés de quasiment trop paramilitaires affrontant donc les Berkout, donc les forces d'élite du régime, eux ils ont été hautement instrumentalisés et parmi eux c'est tout sauf effectivement une forme de révolution spontanée. On peut dire que beaucoup d'entre eux sont stipendiés, donc ont été formés hein.
Voilà, bon, je pense sur le. Bon, on aura l'occasion d'y revenir hein, sur le Kremlin, puisque les élections présidentielles sont le 25 mai. Dans 10 jours, normalement, un gouvernement provisoire est mis en place, donc il y aura forcément des choses encore à dire. On va peut-être aborder quand même un ou deux autres sujets, bien qu'on n'a pas beaucoup de temps si on veut faire aussi une rubrique française. Robert, tu avais quelque chose en tête ?
Je pouvais dire un mot de ce qui se passe au Venezuela, où effectivement, là aussi, on sait pas trop, bien qu'ils s'en défendent, on ne sait pas trop s'il n'y a pas, sous une forme ou sous une autre, une intervention plus ou moins directe des Américains pour déstabiliser Maduro et donc le régime chaviste.
Pas possible, ils n'ont jamais fait ça en Amérique du Sud.
En profitant des problèmes comme le coût de la vie, encore que le coût de la vie, il frappe surtout les classes moyennes et la classe supérieure. Le peuple, d'ailleurs, il est descendu dans la rue pour défendre plutôt aussi le régime. Il n'est pas descendu dans la rue pour abattre Maduro. Là, il y a visiblement une tentative. L'avantage de la situation dans ce continent sud-américain, amérindien, c'est qu'effectivement, il y a une solidarité qui joue au niveau de l'ALBA, c'est tous les pays progressistes du coin, et qui font corps avec le régime en place au Venezuela. Et évidemment, c'est pas. S'il y aura sûrement des. Il y a eu des morts, il y en aura d'autres. D'ailleurs, semble-t-il, il y a plus de morts du côté des forces de l'ordre, des forces de défense du système, du pays, que du côté des rebelles. Mais on sent que là, la flamme réactionnaire va être très bien entretenue, et sans doute, y compris de l'extérieur. De Colombie comme des États-Unis, mais pas avec les formes aussi brutales que celles qu'utilisaient par exemple les présidents républicains de Washington.
Oui, Colombie aussi, on peut citer cette attaque contre une candidate de gauche, hein, coup de feu quand même, pas une attaque anodine, Aida Avila, donc, par sans doute menée par des forces de droite, comme tu le disais, éventuellement soutenues par les USA comme l'armée colombienne, donc a été pas mal instrumentalisée dans sa lutte prétendue contre la drogue, quoi. Donc on voit que les affrontements continuent là-bas aussi. Voilà, autre sujet, le nouveau gouvernement Renzi, ça vous inspire pas ce soir? Il a fait la parité, 8 hommes, 8 femmes. Il y a peut-être autant de berlusconiens, du coup on l'appelle Renzi-sconi, que de socialistes dans ce gouvernement-là.
Oui, enfin, on sait trop quoi penser. On l'avait dit, c'est un gouvernement de passage. Hein, et il est juste là pour se faire un nom au panthéon de politique italien, Renzi. Mais de toute évidence, c'est un bric-à-brac qui va pas durer dans le temps. Et juste à noter, effectivement, que c'est les candidats comme Beppe Grillo, donc, qui une fois de plus, ceux qui sont critiqués d'ailleurs hein, par les médias bien-pensants parce que les anti-parlementaristes hein, mais de fait c'est eux qui ressortent gagnants un peu de ce type d'épisode là parce qu'ils voient ils mettent en avant là, donc les limites un peu du système politique italien à savoir voilà des gouvernements qui sont d'une instabilité totale hein. Et d'ailleurs les électeurs s'enlacent hein, les Italiens commencent à s'enlacer.
Voilà, les courtes pauses musicales avant d'aborder la rubrique nationale. Il s'est passé des choses aussi en France et même à Lyon. On l'a fait en hommage à un Ukrainien qui a toute notre sympathie dans l'histoire, Makhno. C'est Udje Royo qui interprète cette chanson.
Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans.
Sujet d'actualité, vous voyez, pourtant, Makhno, ça date des années 20, mais c'est un épisode historique bien intéressant que les militants libertaires n'ont jamais oublié. Il est 19h45, ce 24 février, vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, le Canu Info du lundi, qui va aborder maintenant la rubrique nationale. Il est difficile de ne pas commencer par parler de la manif de la ZAD, zone à défendre près de Nantes, avec, semble-t-il, dans les 50 000 personnes qui n'ont pas trop intéressé les journalistes. Par contre, les quelques centaines de black box et autres militants radicaux ont fait la une de tous les médias, puisqu'il y a eu forcément, dans un grand rassemblement comme ça, une frange de militants radicaux pour s'opposer à la police. Donc la manif, quand même, pour les organisateurs, reste très réussie. Elle n'a pas engendré pour le moment le retrait du projet de Hérault, qui a préféré s'en prendre aux écologistes du gouvernement, une fois de plus, enfin c'est des pantalonnades, parce que les sommes de s'assumer ou de démissionner, et eux répondent que, au lieu de répondre à la question « êtes-vous pour ou contre la ZAD » qui était implicite, ils répondent « ah mais nous, la violence, on a toujours été contre ». Alors quand on avance comme ça en crabe, on risque pas de bien savoir ce qu'il en est. Donc, crise, mais très modeste, puisqu'aujourd'hui, Hérault a déjà dit qu'on avait changé de semaine et qu'il fallait tourner la page. En gros, on n'y pensait plus. Les gaz de schiste, le diesel, les OGN, le nucléaire, tout ça, c'est pas très important. L'important, c'est de se présenter le mieux possible aux élections. Puis peut-être que pour les écologistes élevés aussi. Donc, finalement, tout le monde va rentrer dans le rang. Robert, tu avais peut-être un commentaire aussi à faire là-dessus.
Non, c'est simplement, je rapporterai cette phrase de Jean-Luc Mélenchon, comme toujours, hein, toujours un, il y a toujours un commentaire provoquant, à défaut d'être provocateur. Il a dit, oh, mais de toute façon, c'est une affaire de peu de temps, avec le renvoi du gouvernement Hérault. Après l'échec des élections municipales, eh bien, on renverra en même temps le projet de l'aéroport. Bon. Il faut le prendre pour ce que c'est, une blague, enfin, c'est possible, hein, c'est pas impossible que les choses s'arrêtent avec la fin du gouvernement Hérault. Enfin, bon, ça, c'est de la spéculation politicienne, comme on dirait par ailleurs.
Puisqu'on était dans les manifs, on va dire quelques mots de cette manif à Lyon, anti-FAF. C'était le 22, là, samedi, 700 personnes à peu près, donc, pour protester contre la tendance des fachos de Lyon d'occuper la rue. Et entre autres, d'agresser. Il y a eu cette agression de deux lycéens le 14 février à coups de couteau. Il semblerait que les caméras, pour une fois, peut-être les opposants aux caméras ne diront rien, ont filmé l'action et du coup, ça aurait permis de mettre une identité sur les gens qui ont fait l'agression, voire de les mettre en garde à vue et d'en inculper un. Donc manif assez, bien sûr, à l'initiative des mouvements libertaires, mais soutenu par beaucoup de monde, FSU, FO, CGT, et ainsi de suite. Voilà, autre sujet, Robert, sur le social, des choses à dire aujourd'hui.
La loi Florange a été définitivement adoptée ce soir, je crois bien, mes sources sont bonnes.
Ça ne va pas bouleverser l'avenir des salariés de Florange.
Oui, effectivement. Hein, tu en résumes le contenu, là
Il y a peu de choses à dire. Un entrepreneur, enfin une grande entreprise, hein, qui veut céder une activité, doit chercher pendant 3 mois un repreneur. Chercher, ça ne veut pas dire le trouver. Hein. Donc s'il arrive à prouver qu'il l'a cherché, il a gagné. Sinon, il peut être entaché de pénalités qui ne sauraient dépasser 2% du chiffre d'affaires, autrement dit pas grand-chose. Donc pour la gauche, c'est une posture qui vient bien tard après un événement qu'il ne résout pas. Et pour la droite, évidemment, c'est une intolérable attaque aux droits de propriété et ils vont se tourner ipso facto vers le Conseil constitutionnel.
Voilà, ça concerne les entreprises de plus de 1000. Alors, on a bien en plus sélectionné le type d'entreprise. Et puis, là, je disais que les pénalités, c'est 20 SMIC par emploi qui serait donc la sentence au cas de non-respect de cette loi qui, comme tu le dis, n'implique pas vraiment un engagement.
Oui, puis elle ne va jamais s'appliquer, en plus.
Le Front de Gauche a appelé ça un affichage. Et effectivement, et en même temps, une fois de plus, la compromission sur ses idées, hein, sur ce qu'il défendait quand il faisait sa campagne à la gauche du PS pour être le candidat des socialistes. Montebourg, effectivement, Il cautionne tout ça. Et j'ai même vu que ça plaisait à l'ancien, comment il s'appelle, l'ancien leader d'ArcelorMittal de la CFDT, bon, qui avait fait un combat courageux pour obliger Hollande et le gouvernement à tenir ses promesses. Et qui, bon, donc, il trouve que finalement, c'est une bonne loi. Il y avait un autre conflit sur lequel peut dire un mot, et ça montre bien, effectivement, que ce gouvernement et François Hollande ne veut pas entendre parler d'une mise en cause du fonctionnement du système capitaliste, même quand ce système capitaliste commet des gaffes, non pas des gaffes économiques, mais des gaffes financières et même qui voisinent avec l'aspect souvent voyou de la spéculation. Par exemple, chez Elfundry, c'est une boîte de la microélectronique de Gemnos, à côté de Marseille, pas très loin, et donc qui est passée entre plusieurs mains allemandes, américaines, avec de l'argent qui a été soustrait de cette entreprise et dirigé vers d'autres activités de ses propriétaires, au bout du compte une trésorerie asséchée et plus moyen de faire tourner une entreprise qui pourtant avait à la fois sur le plan technologique toutes ses chances d'avenir. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, ce sont le Conseil général des Bouches-du-Rhône, c'est le Conseil régional, c'est la communauté des communes d'Aix-en-Provence, hein, donc, qui est à côté, et chacune de ces trois entités apporte un milliard et demi de francs. D'ailleurs, le Conseil général des Bouches-du-Rhône devait le voter ce soir. Les deux autres l'ont déjà fait. Donc 4 milliards et demi d'argent public qui va être donné à ces mêmes dirigeants qui ont floué tout le monde, à commencer par le fisc, à continuer par les travailleurs. Et donc cet argent, eh bien, elle va leur être remise d'une manière ou d'une autre, sans contrepartie. Et on retrouve toute la démarche de ce pouvoir sur ce qu'il a appelé le programme de responsabilisation du capitalisme, dont on sait que les contreparties, il n'y en a pas.
Voilà, oui. Un autre exemple d'absence de contrepartie, si on peut dire, c'est La Poste. Le CICE, ça a été fait pour faciliter la concurrence des entreprises françaises à l'exportation. Et La Poste, ben, elle y a droit, alors qu'elle ne sort pas du territoire. À hauteur de 300 millions, ça va juste lui permettre d'afficher un bénéfice de 300 millions qu'elle n'aurait pas eu sans ça. On est bien contents, les citoyens français, de cotiser pour La Poste en plus, de payer les timbres à un prix exorbitant. Voilà, Michel, tu avais un sujet en national, toi? Pas tellement pour le moment. On a perdu à Antoinette Foulque, elle n'a pas de chance, elle est morte un peu trop tard, elle aurait pu être panthéonisée, mais non, elle est morte jeudi le 20 février, le même jour où on décernait un certain nombre de personne pour être mise au Panthéon, quelquefois en fort mauvaise compagnie, quelquefois en bonne compagnie. Donc on rappellera Germaine Tillon, pourquoi pas. Elle est tout à fait honorable, cette dame. Comme il faut donner un coup à droite, un coup à gauche, un coup à gauche, un coup à droite, Geneviève Antonios de Gaulle. Et puis pareil pour les hommes, la parité était respectée également. Brosselette pour la résistance de droite. Jean Zay, non pas pour la résistance, mais comme homme de gauche qui a été assassiné par la milice pendant la guerre, qui était un ministre du Front Populaire. Voilà, qu'est-ce qu'on... Alors Antoinette Foulque, j'en ai pas dit plus, peut-être que tout le monde ne la connaît pas, elle était députée européenne, elle a même été se faire élire avec sur une liste à tapis, ce qui n'est pas vraiment glorieux, mais elle avait contribué à la fondation du MLF et des éditions des femmes.
Elle rappelle, je t'interromps deux secondes, ouais. Juste, elle rappelle qu'elle a rappelé, parce que ça lui a été reproché, sa cohabitation avec tapis, que dans la même liste, il y avait Taubira aussi, donc que je le dis quand même. Il y avait Taubira, donc j'étais quand même pas quelqu'un totalement isolé sur nos valeurs.
Elle aussi, donc, était en bonne compagnie. Voilà, 77 ans seulement, ou tant que ça. Donc, toutes ces actions datent de 68, fondation du MLF, les éditions des femmes en 71. En 73, on avait même une librairie à Lyon, place des Jacobins. Certains sont peut-être été, ou certaines, s'y approvisionnées en livres fort intéressants. Et puis, voilà, eh bien, ces dernières années, était députée européenne, quand même. Les municipales, un mot des municipales, je ne sais pas au niveau national, il faudra bien faire le bilan, mais entre le PS et le Front de Gauche, ça ne marche pas toujours très fort, puisque à Vénissieux, à Vaux-en-Velin et à Grigny, les trois maires sortants PC vont se trouver avec leurs listes face à des listes PS, quoi. Il n'y a que Pierre Bénite, Léas, s'est inscrit sur une liste PS, PC et Écolo. Et puis Passy aussi, qui à Givors a réussi à faire une seule liste, donc il a une chance de garder son poste. À Lyon, c'est la division, puisque le PS d'un côté, Lyon citoyenne et solidaire du Front de Gauche de l'autre, et d'un troisième côté, si on peut dire, pas tout à fait, le Gramme dans le premier arrondissement autour de Gilbert Perrin qui... présente sa liste donc face à celle du PS.
À Marseille, c'est un coup de tonnerre qui était un peu attendu. Une partie du Modem, celui qui est animé par Benhamias, il vient de loin. Il était trotskiste dans le temps. Après, il était chez les Verts et après, il était chez au Modem. Eh bien, Benhamias vient d'annoncer qu'il se mettait en congé de partie du Modem et pas tout seul avec d'autres et pour soutenir la candidature du socialiste Mennoussi à Marseille. On sait que ça se jouera un peu entre Gaudin et Mennoussi à Marseille, et donc ce type de renfort peut faire pencher la balance du côté de Mennoussi. Je voulais dire un mot peut-être simplement de cet agriculteur qui fait de la résistance parce qu'il est biodynamiste, c'est son nom. Enfin, c'est pas son nom, c'est sa méthode de viticulture, et qui refuse d'appliquer le traitement à base de pesticides pour combattre la flavescence dorée, cette sorte de petite bête qui fait beaucoup de dégâts dans la vigne, enfin, quand elle arrive, parce que c'est pas systématique et c'est pas partout. Et donc, il vient d'être condamné à des amendes pour l'instant. Enfin, il n'est pas condamné. Le procureur réclame des amendes de
1000 euros
pour sa désobéissance. Et on aura le résultat le 7 avril.
Enfin, il a obtenu un bon soutien des écologistes et puis même de la société civile sensible aux questions écologistes avec des dizaines de milliers, je crois, de signatures sur Internet. Voilà, ce que Canu Info se termine. Pas beaucoup d'annonces culturelles, ça sent les vacances scolaires. Toutefois, ce vendredi 28, à Théâtre de Vénissieux, entre deux caisses, chantera le répertoire de Le Prest. Et ma foi, il y a toujours des amateurs pour écouter Le Prest. Ce que Canu Info sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pourrez le réentendre sur... Internet, bien sûr, et puis nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. On se quitte avec Binamé, qui lui aussi a rendu son hommage à Nestor Makhno.
Par la force vive de l'insurrection, tu repousses les armées blanches, mais tu refuses.